Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour, bienvenue. L'actualité économique du jour, elle va être très largement dominée par ce Yankee, ce cow-boy qui nous vient de l'Illinois, qui a signé une lettre le 8 février à l'intention d'Arnaud Montebourg en anglais, où il explique pourquoi il renonce à se porter à nouveau candidat à la reprise du site d'Amiens. Il tacle un peu le gouvernement, ainsi que le gouvernement américain, mais principalement la CGT. On va en parler avec Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour à tous.
Il est PDG de Micropole et président de la Fondation Croissance Responsable. Et Jean-Pierre Petit.
Bonjour.
Il est président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil et de stratégie d'investissement. Je vous lis juste le texte et vous réagissez. Dear Mr. Montebourg, j'ai visité cette usine plusieurs fois. Les salariés touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures le matin, éventuellement 3 heures l'après-midi en discutant avec 1 heure de pause pour déjeuner. Je l'ai dit en face au syndicat français, ils m'ont répondu que c'était ça, la France. Vous vouliez que Titan démarre une négociation, mais nous ne sommes pas aussi stupides que ça. L'agriculteur français, il veut des pneus pas chers, il se moque d'où viennent ses pneus. Donc Titan va acheter un Chinois ou un Indien, où l'on paye le salarié moins d'1 euro de l'heure, et fournir à la France tous les pneus dont la France a besoin. Vous pouvez garder vos soi-disant ouvriers. Titan n'est pas intéressé par l'usine d'Amiens Nord.
Oui, c'est dommage parce que c'est trop simplificateur, ça
ridicule.
C'est
vraiment la lettre, hein, c'est du
oui,
verbatim, ça.
Mais c'est ça qui est ennuyeux, c'est que c'est exagéré, et que du coup, ça risque de provoquer un mouvement dans l'opinion de refus du réel. C'est-à-dire que...
Je vois ce que vous voulez dire.
Hein, c'est qu'au fond, bien, ça ne souligne pas réellement le problème du travail en France, qui est essentiellement constitué par un montant de charges sociales beaucoup trop importante, tant au niveau... Et d'ailleurs, on le rappelle, il faut toujours le rappeler, ça n'est pas le salarié qui paye les charges sociales, c'est le salarié qui paye l'ensemble des charges sociales, parce que c'est le travail, c'est le salarié, pardon.
Mais là, c'est la CGT qui est visée. C'est pas le coût du travail.
Et donc, le salarié est trop peu payé en net par rapport à son coût pour l'entreprise, ce qui fait que les entreprises ne veulent pas s'implanter et que les salariés, étant payés peu, ont tendance à travailler moins par réaction. Et donc, on est dans un cercle vicieux terrible en France. Et ça exprime, cette lettre exprime de façon caricaturale un problème réel.
Parce que là, véritablement, le rôle de la CGT. Et la CGT, d'ailleurs, se glorifie depuis 7 ans d'avoir réussi à faire reculer la direction d'Amiens Nord sur toutes leurs tentatives d'évolution. Ça a commencé en 2007. Tous les plans de reprise ont tanké. Tous les plans de départ volontaire ont été repoussés. L'accord de compétitivité qui a été accepté juste à côté chez Dunlop en 2007 a été refusé à Amiens. Et ils estiment que c'est leur victoire.
C'est pour ça, moi, je pense que je suis d'accord avec Guillaume, je dirais pas que c'est caricatural. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, là, pour être un peu provocateur, je dirais que la vérité sort de la bouche des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai lu la lettre en anglais, alors c'est l'anglais du business.
C'est simple.
Monsieur, il prend pas de gants, il dit les choses telles que le plan, en disant, mais attendez, votre syndicat, il est fou, c'est n'importe quoi, etc. Et il le dit de manière excessivement directe. Et c'est quoi, finalement? C'est le principe de la réalité. C'est le monde des affaires en permanence. Cette entreprise, elle est face à la concurrence internationale, etc. Et il le dit très bien, mais...
Non, mais c'est le problème du 1 euro de l'heure qui est arrivé.
Oui, le 1 euro de l'heure, ça va à tous les coups.
C'est le 1 euro de l'heure.
Et je l'ai lu volontairement, j'aurais pu l'édulcorer.
Mais c'est la réalité, hein. C'est quand même la réalité.
Oui, mais vous savez comment beaucoup de Français vont réagir? Eh bien, que ce salaud d'Américain, il saignait des Chinois et des Indiens. Moi, je suis pas un ouvrier chinois. Voilà ce qu'on va avoir.
Et donc, ça fait 10 ans qu'on refuse de dire qu'il va falloir réorganiser les usines de production automobile en France, qu'il va falloir refuser de réorganiser le coût du travail, les retraites, etc. On n'arrête pas de se mettre la tête dans le sable. Donc, je suis d'accord, effectivement.
On ne peut pas passer 1 euro de l'heure, quand même.
Non, mais bien sûr que non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à innover et en même temps, il faut continuer à se réformer lourdement, ce qu'on ne fait pas du tout en France. Donc, il le dit effectivement de manière très, très brutale ou très, pas brutale, mais très, très cash, voilà, comme le font les Américains en tant que tels, sans pudeur ni quoi que ce soit. Il dit des choses. Ça choque certainement en France, mais moi, j'aime bien ce discours. Ça sort un peu des circonvolutions, etc. On va dans le principe de la réalité. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien dans cette lettre, c'est que ça se base sur du concret. Voilà, sur un exemple micro, concret, et que ça évite toute la langue de bois. Parce que comme en France, on n'a pas d'opposition, enfin, il n'y a pas de démocratie, enfin réelle sur le plan économique, enfin, je veux dire,
l'opposition. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de libéraux.
Il n'y a pas de débat, il n'y a rien, je veux dire, voilà, c'est le mouvement des pigeons qui est donc partie de la société civile, enfin, une partie de la société civile qui est partie du rapport Gallois, enfin, toute la discussion qu'on a eue autour du rapport Gallois, et puis là, ça part. Moi, j'en ai un peu marre de voir ces chefs d'entreprise qui vont chez le ministre du redressement productif, ou chez Hérault, ou chez Hollande, le doigt sur la couture du pantalon. C'est bien que, du fait fait même de l'absence de débat politique de fond, y est, à partir de la base, si je puis dire, et même si ça vient d'un chef d'entreprise américain, ben qu'il y ait des réactions un peu brutes de décoffrage, certes.
D'accord, Jean-Pierre, seulement lui, il touche pas d'allègement de charges sociales sur les bas salaires, il touche pas de crédit d'impôt compétitivité emploi, il touche pas de crédit d'impôt recherche, il a rien à attendre du gouvernement, donc il peut se permettre de lui dire ce qu'il a envie de lui dire.
Attendre du gouvernement, vous savez très bien que c'est tous ces trucs que vous venez de signaler ne sont que la contrepartie d'une excessive rigidité du marché du travail,
sûr,
et voilà.
Bien
donc.
Mais on sait bien que la menace de supprimer ceci ou cela, si on rentre pas justement dans les clous, le petit doigt sur la couture du pantalon,
si
existe.
Tout le monde est comme ça, on va rester figé dans les rentes diverses et variées françaises,
et donc c'est l'économie c'est l'économie fossilisée, enquistée, dont la CGT.
Et c'est la poursuite du déclin.
Et la caricature absolue.
La poursuite du déclin quasi assurée. Donc il faut qu'il y ait des gens qui prennent des initiatives.
Il faut ouvrir sa gueule, quoi.
Bah bien sûr.
Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Mais les chefs d'entreprise français cette lettre-là aurait déjà dû être exprimée par les chefs d'entreprise français. Voilà.
Et Nicolas, existe peut-être qui n'ont jamais été publiés. Et là, les Échos ont fait un job. D'ailleurs, je les ai pas cités. On les remercie. C'est véritablement eux qui ont
signé ça. Ça mesure. Je trouve que ça illustre quand même l'acuité du faux débat qu'il y a eu en France depuis 3 ans, que ça soit avec le gouvernement d'avant et l'actuel, où en disant on va réindustrialiser la France. On voit que ça va être extrêmement difficile de réindustrialiser la France. Donc il faut être quand même dans la réalité. Le redressement productif, qui est le nom du ministère, au fond, il voit bien en tout cas quelle est l'ampleur du challenge auquel il a à faire face. C'est pour ça que, je change pas de sujet, mais c'est de l'autre côté, si on attaque les banques en France et la finance qui font encore beaucoup d'emplois, autant sur l'industrie, on a plutôt, à des exceptions près, des désavantages compétitifs en France. En tout cas, on est moins bon que les Allemands en moyenne. Il y a des gens qui sont meilleurs. Autant, par exemple, dans la banque, on était supérieur aux Allemands. Et qu'est-ce qu'on va faire? On essaye encore d'attaquer la profession financière. Et c'est incroyable, parce que si on attaque ceux qui marchent, alors qu'on n'arrivera pas à redresser ce qui marche pas, on va vraiment avoir un problème d'emploi énorme.
J'aimerais aussi qu'on parle quand même du rôle des syndicats.
Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Là, faut pas en tirer la conclusion de cette lettre que donc on est incapable de réindustrialiser en France. On est capable de réindustrialiser et il faut tout faire pour réindustrialiser, mais pas dans les conditions dans lesquelles on le fait à l'heure actuelle. Et là, on débouche sur ce problème de syndicat. Sur Amiens-Nord, en tant que tel, tout le monde le sait, il y a un syndicat majoritaire qui, depuis 5 ans, a complètement bloqué les choses. Voilà. Donc, mais personne ne le dit, d'ailleurs. Enfin, ou on le dit à cette antenne.
Maintenant,
enfin,
ça a été dit.
Est-ce que le gouvernement cherche à agir sur ce point?
C'est comme si France avec la CFDT, c'est comme Force Ouvrière avec Bricorama et l'ouverture le dimanche.
Ce qui m'ennuie là-dedans, au final, c'est que ça revient à dire, bah oui, effectivement, les pneus, ils vont plus être produits en France, ils vont être produits ailleurs. Et la menace qui est dire dans 5 ans, Michelin produira certainement peut-être pas plus de pneus, mais en tout cas moins de pneus qu'aujourd'hui, est réel. Donc, il faut bien sûr se battre sur la réindustrialisation, mais pas de la manière dont on le fait à l'heure actuelle. Et là-dessus, les partenaires sociaux, en tout cas certains partenaires sociaux, ont une responsabilité très lourde. Encore une fois, en France, on refuse de regarder les choses en face. Voilà. Dès qu'on parle de fermer un site industriel, c'est la tétanisation complète. Alors qu'il faut réorganiser les choses pour recréer de l'emploi derrière.
On ne pense qu'à sauver des emplois et on ne pense pas à en créer.
C'est le modèle insider. Les insiders sont gagnés en France, d'une manière générale. Mais la désindustrialisation se poursuit.
Ah, bien sûr.
Casse des capacités industrielles.
Bien sûr.
La désindustrialisation.
C'est pas une fatalité obligatoire, c'est ça que je veux dire. Il faut prendre
quand même un mouvement structurel.
Regarder la réalité politique, sociologique et démographique de la France et voir que ça se poursuit. La désindustrialisation était beaucoup plus massive qu'en Italie, par exemple, sur les 10 dernières années.
Bien sûr, ouais.
C'est pratiquement un des pays où la désindustrialisation était la plus massive.
Mais c'est clair, mais c'est dommage, entre guillemets. Je dis pas que c'est réglable d'un coup de baguette magique, mais on voit les États-Unis sur la crise automobile, ils ont quand même su redresser les choses, mais avec des mesures aux antipodes de ce qu'on est en train de faire en France.
Avec des changements qui sont pas possibles en France.
Le gouvernement actuel a une base.
C'est pas possible.
A une base électorale, une base sociologique, qui l'empêche quasiment. Le système est totalement bloqué.
Ben, on le fera pas, donc il se passera rien. Et comme
non, il va se passer,
ça va être la poursuite du déclin.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Pierre Petit?
Une accélération du déclin.
Le serment original de François Hollande, qui est de dire à sa base, qui globalement est une base de fonction publique surprotégée, je vais vous permettre de passer la crise sans trop de douleur en faisant payer les entreprises et les riches. Eh bien, ce modèle-là, ce serment-là est tout simplement rompu.
Bah, de toute façon, il va être rompu progressivement à la Hollande, enfin à la française, parce qu'on va mettre des rustines ici ou là. Dès que ça va commencer un petit peu à tanguer, il y aura un rapport Gallois 2, il y aura un nouvel accord, ceci, qui montrera qu'on fait des réformes, qui montrera qu'on fait des réformes à l'Allemagne, au marché, etc. En fait, ce ne sont que des petites réformettes à chaque fois. C'est ça le véritable sujet. Si Bersani et Monti l'emportent là dimanche, lundi, et que la stratégie de Monti se poursuit parce que Monti a plus réformé l'Italie que la France en 30 ans, en fait. Hein. Faut bien dire, toutes les mesures qui ont été prises, puisqu'on parle de réindustrialisation, on parle de d'ajustement budgétaire, la pression va venir naturellement sur la France au cours des prochaines années. Surtout si Rajoy se tient aussi sur ces réformes, la pression va revenir naturellement. Alors peut-être pas en 2013, en 2014, etc. Alors, ça va revenir sur la France.
Justement, on va parler de la France. Il y a eu deux événements. Un événement qui est maintenant un peu ancien en termes d'actualité brûlante, c'est-à-dire l'abandon des 3% annoncé en exclusivité par Laurent Fabius. Et puis l'autre élément, c'est la révision de la croissance à la baisse pour 2013, de 0,8 à 0,2-0,3%, selon à nouveau le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ce qui a valu ce tweet extraordinaire hier d'un auditeur qui disait « Le fait que ça vienne de Fabius prouve à quel point l'économie est une chose étrangère à ce gouvernement. » J'ai trouvé ça très joli. Est une affaire étrangère pour ce gouvernement.
Mais oui,
bon, parce comment fait-on là? On a abandonné les 3%, donc on a retiré tout horizon politique, tout gage de solvabilité de notre pays à nos prêteurs à horizon...
Nicolas, on est dans la pensée magique.
Alors,
on est, ce gouvernement est dans l'espérance d'un scénario où magiquement la croissance reviendrait, c'est-à-dire que macroéconomiquement il y aurait une croissance, tout en étant bien obligé de constater que microéconomiquement, quand il regarde les entreprises, on parle de notre sujet précédent, où les emplois vont disparaître. Et donc on voit pas très bien comment, avec une part déclinante, une capacité d'exportation qui est là aussi déclinante depuis 2001, aucune décision prise sur les 35 heures, c'est bien évidemment difficile pour ce gouvernement, aucune décision prise sur la baisse des charges sociales parce que ce crédit d'impôt est très insuffisant pour les métiers à valeur ajoutée. Et d'où viendrait la croissance?
On rappelle qu'il s'arrête à 2,5 SMIC, donc effectivement...
Qui tout d'un coup, soudainement, va nous acheter les produits français à un tel rythme que ça irait bien. Alors si on pense que c'est la consommation qui va aider, la consommation c'est bien, mais la consommation elle est faite à crédit, on consomme 10% de plus qu'on ne produit, ça a des limites, c'est pour ça qu'on a une balance commerciale qui est très mauvaise, et de l'autre côté, on fait tout ça par de l'endettement, et on approche assez rapidement, Jean-Pierre nous le dira, des 100% de dette en France par rapport au GDP, et donc quand on fait les choses à crédit, sans faire d'efforts, il y a peu de chances que la croissance arrive de façon magique.
Alors, réaction de Christian Poyot, après, moi j'ai toute la liste de ce qu'il faudrait faire en urgence, vous allez me dire si c'est la bonne, ouais. On y va.
Non, mais sur cette annonce de non-atteinte de 3% et de réduction du déficit, alors il y a la notion vis-à-vis de l'Europe et des banques, où effectivement je comprends tout à fait que le gouvernement était obligé de, mais sur le reste, tout le monde le sait depuis très longtemps.
Ah oui, enfin, quand un pays officiellement
c'est la même chose que la lettre là de ce monsieur. En fait, il aurait dû avoir une lettre pour dire, ça fait un an quasiment qu'on sait que tout ça ne serait pas atteint. Enfin, si vous voulez, dans le monde de la réalité microéconomique, tout ça, je dis pas qu'on s'en fiche, mais globalement, c'est un total non-événement.
Hein, ouais, à part que le problème, lorsque vous avez fait les 3%, la police d'assurance de la France à vos prêteurs, et que vous officiellement la parole politique décide de l'abolir, il faut donner une nouvelle cible et dire comment on va y arriver.
Je suis pas à la tête des prêteurs à l'économie française, mais enfin je pense que ça fait longtemps qu'ils devaient intégrer aussi que les 3% ne seraient pas atteints.
Faut quand même le vrai sujet, c'est pas sur le solde, on sait très bien, c'est sur les dépenses publiques. La seule originalité française, c'est sur les dépenses publiques.
La seule originalité française, ce sont les dépenses publiques.
Bien sûr. Alors d'abord sur le solde,
les dépenses et les impôts.
Bah oui, mais on n'a plus de marge de manœuvre.
Qu'est-ce que vous appelez le solde?
Le solde, c'est-à-dire le déficit public. Déficit public, d'accord. Bon, il va pas être à 3, il sera à 3,6, 3,7, 3,8, on était à 4,5 l'année dernière, puis c'est tout. On va donner des délais à la France, c'est évident, on a donné à l'Espagne,
oui,
on a donné à tous les pays.
C'est bon, on lirait
Après, il y en a, vous mettez ça devant un enfant de 6 ou 7 ans, il va comprendre. Je vais juste donner 3-4 chiffres. En France, les dépenses publiques en pourcentage du PIB sont à 56,5.
Oui.
En moyenne, dans la zone euro, on est à 49, donc ça fait 7 points d'écart. Les recettes publiques sont en moyenne pratiquement à 52 en France. Voilà. 52. Il faut quand même le voir.
On est 52% du PIB.
Absolument.
D'accord.
Tout compris.
Un peu plus de 1000.
Fiscal et non fiscal.
De 1000 milliards.
En moyenne dans la zone euro, vous êtes un peu plus de 46. 6 points d'écart. Donc, voilà. Le solde public, l'année dernière, enfin en 2012, est à 4,5. En moyenne dans la zone euro, vous êtes à 3,3. Donc, vous avez vu les trois chiffres que je viens de vous donner? Où est la marge de manœuvre? C'est évident sur les dépenses publiques. Tout le monde le sait très bien. Voilà. Donc, sur les dépenses publiques. Le gouvernement a dit qu'il réduirait les dépenses publiques en pourcentage du PIB. Or, sur quoi ça repose? Ça repose essentiellement sur des estimations, des anticipations de PIB totalement délirantes. Non seulement pour 2013, mais 2014. Je signale que dans les estimations pluriannuelles du gouvernement, le PIB va progresser de 2%, s'il vous plaît. Ouais. C'est pas 0,8,
mais
2% en 2014. Pardon, non mais c'est complètement débile.
Le point important, c'est que l'économie marchande est en train, c'est-à-dire la réalité, c'est que le PIB, il est composé, comme vient de le démontrer
Jean-Pierre. PIB non marchand et PIB marchand.
Ben oui, le PIB non marchand, c'est beaucoup de dépenses de l'administration. Mais le PIB marchand, il baisse. Alors, je ne sais pas exactement à quel rythme, mais probablement, on le voit, sur la production industrielle, on est très en dessous de la période d'avant-crise sur beaucoup de secteurs, ce qui fait que c'est l'image de la Révolution française, c'est-à-dire qu'on a un énorme système d'État qui vit sur le tiers-État et qui n'arrivera plus à produire la richesse qui permettra de payer ses impôts.
C'est déjà le cas.
Et
ses dépenses. Aujourd'hui, la création de richesse ne paye pas.
Ça s'accélère, Nicolas, parce que comme on parle que de ce PIB global qui prend en compte une part d'économie non marchande, on comprend bien que si la partie marchande, ceux qui créent la richesse, en ont de moins en moins chaque année, ils ne pourront pas supporter tout ce fardeau.
On attend toujours les propositions de réforme sur la dépense de l'État.
Alors, écoutez, pour l'instant,
dépenses publiques.
Voilà ce que nous dit Jean-Marc Ayrault. La question est de mieux gérer la dépense publique. C'est ce qu'il dit hier devant les élus PS à l'Assemblée nationale, sans remettre en cause des politiques comme la politique familiale qui fonctionne. Donc, il enterre l'idée de fiscaliser les allocations familiales. Je ne suis pas venu annoncer un plan de rigueur pour 2013.
Mais d'abord, le terme de rigueur, ça ne veut pas dire grand-chose.
On peut l'appeler austérité, rigueur, bonne gestion, comme vous voulez.
Il faut une méthode. Le même tabou que le gouvernement précédent.
Il faut d'abord une méthode.
Qu'on leur dise qu'il y a besoin d'un plan de rigueur. Franchement, qu'on leur dise la vérité.
Non, mais ça dépend ce qu'on appelle rigueur. Il faut surtout un plan crédible, avec un contenu vraiment sur la méthodologie, enfin sur la méthode de maîtrise des dépenses publiques. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on évaluer l'efficacité des dépenses publiques ? Quelles seront les solutions en termes de sous-traitance au secteur privé, en termes de réduction du millefeuille institutionnel avec les communes, départements, régions, etc.
Là, on n'avance pas.
Baisse de subventionnement aux associations. Enfin bref, c'est une méthode qu'il faut mettre en place, comme les Suédois ont fait dans les années 90.
Ça veut dire, est-ce qu'il faut attaquer le système des intermittents ? Est-ce qu'il faut réduire les indemnités chômage ? Est-ce qu'il faut attaquer la politique familiale ?
Ça fait partie de la méthode.
Est-ce qu'il faut renier les aides aux entreprises ? Est-ce qu'il faut externaliser les missions de l'État ? Est-ce qu'il faut repenser la formation professionnelle ? Est-ce qu'il faut retirer aux partenaires sociaux la gestion paritaire de tout ce qu'ils gèrent.
Mais c'est pas ça que le gouvernement va faire, probablement. Il va continuer de bricoler.
Si on prend le système des intermittents...
Elle est longue, la liste, là.
C'est une méthode.
Ça fait toujours partie des vaches sacrées. Moi, je vais comparer la réduction des allocations familiales et les intermittents. Moi, fondamentalement, sur le fait que les allocations familiales soient plafonnées ou réduites pour les revenus les plus élevés, je trouve ça normal.
C'est quoi les revenus les plus élevés ?
J'avais mis 3 900 euros en 97.
J'ai 3 enfants, je touche les allocations
familiales,
tu as un revenu très élevé.
Or, le sujet, il ne va pas du tout être sur toi ou sur un certain nombre de personnes privilégiées.
Il est
sur les classes moyennes.
On est bien d'accord.
Et donc là, c'est très différent.
Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être le plafonner. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet est un vrai débat. Mais à côté de ça, il y a des choses mais 10 fois plus importantes qui sont les intermittents du spectacle, dont on n'avance pas d'un iota. Et je vous fiche mon billet que le gouvernement ne bougera pas un iota là-dessus.
Mais parce que
les vaches sacrées auxquelles personne ne touche.
Mais pourquoi ? Mais parce que derrière les dépenses, il y a des rentes. Pourquoi on a 56% de dépenses publiques ? Pas parce qu'il y a des rentes derrière. Évidemment, des rentes sociales extrêmement puissantes.
Le gouvernement attend d'être complètement dans le mur, c'est ça la question.
Probablement oui.
C'est quand on a le pied sur les braises que véritablement on agit. Bon, on va voir.
Pourquoi Monti était possible en Italie ?
Parce que le gouvernement, enfin parce que les marchés voulaient plus le financer.
Les députés, les ministres ont du mal à imaginer qu'on puisse finalement passer à la rigueur, ce qui démonétise la promesse politique, ce qui est toujours dur à vivre, surtout quand la dépense publique est le PO de l'économie française depuis 40 ans. Alors cette dépense publique, par où on commence et avec quelle stratégie et quelle vision ? Parce que là maintenant qu'on a largué les 3%, on n'a plus d'horizon politique. Donc il faut en retrouver un. Allez, on marque une pause, à tout de suite. Retour avec Guillaume Dard, le président de Montpensier Finance, Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, et Christian Poyot, le PDG de Micropole. J'ai eu énormément de réactions d'auditeurs sur cette histoire de lettres de Titan. Alors, je commence par ceux qui sont pro-Titan. Karen, bravo de dire, comme vous le faites toujours, noir sur blanc, la réalité économique de la France. Merci de mettre les points sur les i. Victor Taylor a raison, on a un gros problème de syndicats en France, écrit-il. Franck, bravo pour oser parler de cette lettre en espérant que cela serve à quelque chose. Christophe, dans Mondico, édition 2013, page 1840, l'entrée Titan et sa définition précèdent juste celle de Titanic. Bon,
C'est pas très pour Titan, là.
Sylvie écrit « Bon sens populaire version USA ». Nous avons Eric. Titan explique que ce n'est pas un problème de charge sociale et de productivité, mais un problème de mentalité face au travail. Écoutez-le, au lieu de remettre toujours le vieux disque « Trop de charges sociales ». Et puis Anne-Marie dit « Cette mentalité, cet état d'esprit où l'on considère que l'on fait déjà beaucoup d'honneur à son employeur d'être là et que l'on ne va pas en plus travailler ». Voilà. Jean-Marc, quel plaisir d'entendre enfin parler vrai, vive l'Amérique. Et puis il y a ceux qui sont plutôt anti-Titan. Ce PDG est fou, écrit Daniel, il raconte des inepties. Ici, il croit que l'avenir est dans le low cost, qu'il aille en Chine. Voilà. Jamais je n'achèterai des pneus par des faits par Titan. Si on veut concurrencer les Allemands dans la voiture, ce n'est pas par le bas de gamme. Goodbye, Mr. Taylor, on ne vous retient pas.
Je serais curieux de savoir quel opérateur ce monsieur est, abonné en termes de sources reportables, savoir si quelle compagnie aérienne il prend quand il part en vacances, etc. J'aimerais bien avoir l'information.
En tout cas, pour les pneus, il considère que le contact entre la voiture et la route demande d'un pneu de marque cher.
Oh oui, bien sûr.
Daniel, Monsieur Taylor est fier d'aller exploiter la misère en Inde. Je vous avais dit qu'il y aurait ses réactions.
Mais la misère...
C'est un des sujets.
La misère s'est réduite en Inde.
Le sujet de la mondialisation, il n'est pas facile à régler. C'est-à-dire que l'entrée depuis 20 ans, depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, donc pas 20 ans, mais même 12 ans, en 2001, ça a changé. Par exemple, le textile, avant l'entrée de la Chine dans l'OMC, la Chine faisait à peu près 14% des exportations mondiales. Un an après son entrée dans l'OMC, elle faisait 60% des exportations mondiales. Une grande partie de l'industrie textile du Maghreb s'est effondrée. Si on a eu le printemps arabe, c'est aussi parce que l'industrie légère ne s'y est pas développée face à la concurrence chinoise. Donc, ce mouvement, c'est un mouvement tectonique d'une importance incroyable, c'est-à-dire que la mondialisation des échanges fait qu'effectivement, la France fait partie, malheureusement, et on peut le dire, des perdants de la mondialisation à certains égards, et ça on peut pas le nier.
Les perdants, c'est toujours ceux qui ne s'adaptent pas.
Elle est encore plus perdante parce qu'elle a un modèle social figé.
Exactement. Les perdants, c'est ceux qui ne s'adaptent pas. Et les gagnants, c'est ceux qui s'adaptent.
Pas. Elle doit s'adapter, mais elle ne peut pas s'adapter au point de payer les gens un euro l'heure.
Exemple avec Amiens,
juste la misère
d'avoir résisté au changement et à l'adaptation pendant 7 ans. Et le résultat est là, cette boîte est aujourd'hui menacée.
Quand il nous parle de la misère en Chine, je voudrais juste dire un truc, c'est que le PIB par habitant a été multiplié par 10 en 30 ans. La misère n'a jamais touché. Mais la misère se réduit également en Inde de façon beaucoup plus moins marquée.
On peut conclure que l'industrie en France est morte. C'est un certain type d'industrie peut-être, mais il y a des choses à faire. On peut réussir à créer des emplois, mais comme ça a été dit, il faut se réformer, il faut bouger, pas rester sur le statu quo actuel.
Réaction d'Amel, vous allez réagir parce que c'est un grand classique. Si les salariés français sont si bras cassés, comment se fait-il qu'ils aient là ou l'un des meilleurs taux de productivité du monde? C'est quand même la variable qui permet une meilleure compétitivité.
On parle de la productivité horaire, et c'est
fou. Ensemble.
Je me permets pas en tant que chef d'entreprise, il y en a d'autres aussi autour de la table. Ça, c'est totalement faux. On court à 100 mètres. Et on nous dit que sur 5 mètres, on est les meilleurs. D'accord? Donc on a peut-être le taux de productivité horaire le meilleur, mais on fait le moins d'heures par an. Donc ça, c'est un chiffre qui est mais n'importe quoi, je peux vous dire. Ça, c'est moi. Ce qu'on nous renvoie à la figure à chaque fois, c'est une comparaison qui est nulle et non avenue.
On ne court pas un 100 mètres, on court un marathon permanent. Et donc, il faut au contraire avoir une capacité de résistance et d'endurance et de travailler plus.
En plus, je voudrais juste te dire un problème de méthodologie. Ce qui compte pour la croissance potentielle, c'est pas la productivité même du travail ou la productivité horaire ou pas même par tête. C'est la productivité générale des facteurs, qui dépend de la compétitivité générale de l'économie. Or, elle n'arrête pas de reculer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une croissance potentielle aussi faible. C'est la croissance potentielle, et ça, faut bien se le mettre dans le crâne, c'est la population en âge de travailler qui progresse chaque année, plus la productivité générale des facteurs. La croissance potentielle n'arrête pas, si vous faites un calcul, je ne vais pas le faire ici, mais n'arrête pas de diminuer en France. Elle est à peine au-dessus de zéro.
La réglementation française ne concourt pas à la productivité.
Cette notion de productivité horaire, ça fait partie des mythes français. On a la meilleure productivité horaire, soi-disant, du monde. Il faut regarder les chiffres. Donc, on est les meilleurs. Mais enfin, il faut arrêter ce genre de...
Oui, c'est comme quand on dit, il y a beaucoup d'investissements directs qui rentrent. On oublie ceux qui sortent aussi. Voilà.
D'ailleurs, justement, sur les investissements directs, parce que j'ai eu le débat il y a quelques jours.
On avait parlé.
On n'a pas creusé le truc. Un investissement direct étranger. On dit, la France est troisième récipiendaire des IDE, des investissements directs étrangers. Regardez, nous sommes attractifs. En fait, qu'est-ce qu'on considère comme un investissement direct étranger? Un gars qui vient racheter une entreprise, c'est un investissement direct étranger. Construire une usine, c'est un investissement direct étranger. Quels sont les investissements directs étrangers qui sont créateurs de richesse et quels sont ceux qui siphonnent de la richesse?
Non, mais attends. D'abord, ce qui compte, c'est les investissements directs net. C'est-à-dire entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Parce que l'attractivité, on peut pas regarder uniquement les investissements qui rentrent. Parce que les investissements qui rentrent, dans une économie développée, il y en aura toujours. Voilà.
Est-ce que l'achat d'une entreprise cotée, c'est un direct ou pas un direct?
C'est 10% du capital, la norme, en général.
Le direct? Donc, ça veut dire que, au fond, si une entreprise, si des étrangers achètent des entreprises françaises cotées, c'est un investissement direct?
Oui, c'est c'est la différence, c'est un certain pourcentage du capital.
Mais investi. Donc ça veut dire, ça veut pas du tout dire qu'il y a un investissement en France au fond.
Quelqu'un
ça veut dire qu'on a acheté,
VMH,
si on achète 10% des.
Direct, en clair, c'est ça. Quoi.
Bah après, non, mais alors après, ce qu'il faut regarder, c'est l'impact des investissements directs sur l'emploi.
Voilà.
Sur
voilà. Le, voilà, et donc le chiffre, probablement, ne veut rien dire au fond. C'est ce que tu dis. Soit il faut d'abord considérer le net. Non, mais... Deuxièmement, si ça veut dire simplement que les actionnaires français vendent leurs entreprises à l'étranger, c'est considéré comme un investissement direct alors qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'augmentation de la capacité productive.
Non, non, mais voilà, exactement. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les nets. Parce que quand même, c'est assez important qu'il y ait toujours des investissements qui rentrent en France. Ça, c'est indéniable. Par rapport à l'Italie, si je regarde par rapport à l'Italie, nous, on en a eu beaucoup plus qui sont rentrés. Donc, c'est plus toute chose égale par ailleurs, plutôt favorable. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la compétitivité relative. Dans la compétitivité relative de la France, il y a des enquêtes très fiables qui existent. Doing Business de la Banque mondiale, l'indice de compétitivité du World Economic Forum. On voit bien que la France a eu plutôt tendance à reculer au cours des dernières années. Je parle pas du dernier rapport, je parle des dernières années. C'est ça qui compte.
Bon, Amel, pour terminer, ce n'est pas la CGT qu'il faut attaquer, mais le fait qu'elle puisse utiliser ce que tout le droit du travail lui permet de faire. J'en ai encore plein, mais je peux pas tous les lire, malheureusement. J'aimerais qu'on revienne sur ces histoires de rigueur et de croissance. Bon, je vous ai donné la formule de Jean-Marc Ayrault. Je vous ai listé ce qui, à mon avis, ressemblait à ce qui nous attend. Alloc, retraite, aide aux entreprises, intermittents, formation professionnelle, collectivité locale, indemnité au chômage. Mais... Alors, on a cette réaction du ministre. Il nous faut absolument garder les moyens de mener des politiques contracycliques. On arrive à l'os. Sous-entendu, on ne peut plus réduire.
C'est fou, regarde. Ça c'est symptomatique. C'est symptomatique.
On a doublé la réduction des dotations sur 2014 voilà. 2015 pour les collectivités locales. On est à 3 milliards au lieu d'un milliard et demi sur 3
mais
ans.
Mais regardez.
Sur combien de centaines de milliards?
100 milliards. Non.
Les collectivités locales, la dotation, 55 milliards par an.
Non, mais l'ensemble du budget des collectivités locales.
Ah, l'ensemble du budget.
C'est quoi? C'est 150, 200 milliards?
De toute façon, c'est 11% à peu près des dépenses du PIB.
Donc, c'est 200 milliards.
Dans ces eaux-là, j'ai pas le chiffre précis.
3 milliards, 1,5, c'est j'appelle, c'est enfin l'os, c'est très mais proche de la peau. Alors
un élu, non mais
entreprise va réduire pas ensemble.
Pourquoi
mais Jean-Pierre,
quand une entreprise qui est dans une situation un peu compliquée, elle va réduire ses dépenses de 1%, ça fait rigoler quoi. Enfin c'est nettement plus que ça. Quoi.
Mais là le problème c'est qu'on ne s'est attaqué qu'aux dépenses de fonctionnement. C'est 19% des dépenses de l'État.
En Alsace dont on parle relativement rarement, en Alsace ils ont fusionné les deux conseils, enfin le conseil régional et deux conseils. Mais pourquoi on le fait pas à d'autres endroits? Il y a quand même des gens qui ont le courage de le faire.
Il y a deux régions françaises qui vivent davantage de revenus primaires d'activité, c'est-à-dire de salaires et de revenus réels d'économie, que de transferts sociaux. C'est l'Île-de-France et l'Alsace. Tout le reste de la France vit davantage de transferts sociaux.
Qu'est-ce qu'on répond à cette ministre qui dit il nous faut du gras encore et parce qu'on a besoin de mener des politiques contracycliques?
Mais c'est symptomatique. Les dépenses publiques sont à un niveau record d'après-guerre. Alors qu'on a la crise la plus grave d'après-guerre, la croissance potentielle la plus grave d'après-guerre, et elle ne sait pas. Elle ne sait pas réduire les dépenses publiques. Mais pourquoi elle ne sait pas? Parce que d'abord, la plupart de ces gens-là... Non, mais c'est pas non plus parce qu'en fait, ils sont pas compétents pour réduire les dépenses publiques. Parce que pourquoi on a le record d'élus en nombre d'habitants en France? Parce que des élus, c'est fait pour dépenser en France. Voilà, c'est ça fondamentalement. Ils ne savent pas parce que de toute façon, ils n'ont jamais... Enfin, le plus souvent, les responsables politiques n'ont jamais fréquenté le secteur privé. Voilà, c'est ça. Et derrière, il y a des rentes. Et les rentes sont très puissantes dans les ministères.
Donc Jean-Pierre, c'est quoi? C'est la faillite du système?
Mais bien sûr, c'est la faillite du système. Mais les agriculteurs sont chez eux au ministère de l'Agriculture. Les artistes sont chez eux au ministère de la Culture. Les profs sont chez eux au ministère de l'Éducation. Enfin bref, le système, c'est la capture de la rente. Comme le disait Stigler dans les années 70, le prix Nobel 82, c'est que les ministres sont représentants des administrations qui sont représentants des rentes qui protègent. Voilà.
Je pense effectivement que...
Donc ils savent pas réduire les dépenses publiques.
Ils savent pas faire. C'est comme un enfant à qui vous dites pas le coude sur la table. Vous lui avez dit, il le sait, mais pourtant le réflexe c'est qu'il le met.
Il sait pas parce qu'en plus
ils savent le faire en tant que
Mais il y en a pas des masses.
Et après
sur la remarque que Usac qui pige, vous allez en trouver 10 qui
sur la remarque que vous disiez là, c'est quand même dans l'état d'esprit de dire ce qui va sauver le système, c'est l'État. Et là, on est vraiment dans le...
Ah, mais c'est le mythe de l'État qui protège.
Je reprends l'exemple de l'automobile américaine. L'automobile américaine était au fond du gouffre. Elle s'est réformée lourdement en disant on ferme des usines, on licencie des gens, on coupe dans les dépenses sociales. Et à ce moment-là, l'État a dit, OK, comme vous faites toutes ces réformes, je vous aide pour passer... Ici, c'est complètement l'inverse. On donne des subventions pour rester dans le statu quo. On ne bouge rien. C'est vraiment un exemple frappant de la pensée, économique de nos dirigeants. Bon. Voilà, là, on est dans le cœur du sujet.
Guillaume Dard, est-ce qu'on y va, du coup, là, maintenant? Parce parce qu'on disait toujours il faut être dans le mur, mais là on y est. Donc
on n'y est pas encore tout à fait parce que
qu'est-ce qu'on emprunte à 2% à 10 ans.
Et pourquoi est-ce qu'on emprunte à 2% à 10 ans? Parce que les banques centrales ont une politique de taux d'intérêt extrêmement bas qui fait que les investisseurs institutionnels sont obligés d'acheter des obligations et qu'ils ne peuvent pas acheter que des obligations allemandes et donc ils achètent aussi des obligations françaises. Donc bien entendu, ce taux à 2% n'est pas un prix d'excellence donné à l'économie française, il est une résultante du phénomène global. La grande inquiétude, c'est si jamais les banques centrales commencent à cesser leur politique de taux d'intérêt zéro et les remonter doucement. Alors là, évidemment, on va être confronté à une très grande vitesse à la véritable échéance, c'est-à-dire qu'on verra que la France, malheureusement, ne peut être obligée de se transformer complètement. Mais tant que les banques centrales laissent ces politiques à taux d'intérêt, parce que la France n'est pas le seul pays au monde qui est confronté à ces sujets de déséquilibre, c'est-à-dire que le modèle social post-seconde guerre mondiale est mise en cause, et il est mis en cause doublement par à la fois le vieillissement démographique dans un certain nombre de pays et par la mondialisation qui provoque une désindustrialisation.
On ne va pas provoquer la mutation du modèle français dans une urgence totale, parce que même avec du temps, on n'y arrive pas.
Mais vous ne
pourrez pas du jour au lendemain expliquer que les indemnités chômage, c'est tant, que les pensions de retraite, c'est tant.
Mais surtout, avant de dire,
il faudra bien le faire. Il faut regarder ça en face. Après, moi, la France n'est pas encore dans le mur, parce que la France, elle a aussi plein de qualités, plein de ressources. Elle est riche, la France. Elle est riche de l'énergie des gens, de beaucoup d'entreprises de très grande qualité qui exportent. Enfin, on a encore des dizaines de moyens. Moi, j'essaye absolument de ne pas avoir un discours anxiogène, de dire ça y est, tout est fichu, il n'y a plus rien à faire. Non, on est à l'opposé de ça. Simplement, il faut prendre des vraies réformes difficiles, socialement parlant, s'entend, qui vont être dures, mais qui après vont porter leur... Et c'est ça qu'il faut dire aux Français. C'est un message positif, finalement. On a totalement les moyens de bouger. Simplement, il faut le faire. Il faut avoir la volonté de le faire.
Mais Pierre, on ne le fera pas comme ça. D'abord, je vous rappelle, il y a une campagne électorale il y a un an, je vous signale, qui a duré quasiment un an. On n'a absolument pas abordé. On a divagué un peu dans tous les sens, mais on n'a absolument pas abordé les vraies questions, et notamment pas la question des dépenses publiques. Donc là, je vous dis, on est obligé d'improviser. Bon, ça s'improvise pas. Il faut bosser avant. Les pays qui ont vraiment réussi, comme la Suède, le Canada, etc., dans les années 90, à baisser le poids des dépenses publiques de fonctionnement et de transfert, ils ont établi une méthodologie. Il faut une méthodologie, parce que là, il ne s'agit pas de tailler dans la hache, dans les programmes d'intermittents, dans l'indemnisation du chômage, sans méthodologie. Il faut un véritable rapport coût-efficacité de chaque chose. Comment on peut réduire les redondances au niveau du millefeuille institutionnel, département, région, État, etc. Comment on peut profiter efficacement des changements technologiques dans la fonction publique, etc. Il faut une méthode, il faut bosser le sujet. Alors, mais ça ne va pas se faire en 15 jours. Et ce gouvernement-là n'a pas été élu sur ça, ce que je sache. Au contraire, il a été plutôt élu sur le fait de sanctuariser les rentes. Donc voilà, donc on est dans une contradiction totale. Et Hollande, comme les autres, va acheter du temps à chaque fois. Donc chaque fois, dès qu'il y aura des petites tensions, il mettra une rustine, comme a constitué le rapport Gallois. Et puis après, il y aura un autre petit truc, mais il n'y aura jamais de méthode claire et cohérente pour maîtriser les dépenses publiques.
En même temps, les Espagnols pensent à faire de la relance, là, maintenant. Ils ont l'impression d'être allés trop loin. Donc le juste équilibre est très compliqué à trouver.
Non, Nicolas, au fond, un des enjeux de 2013, c'est de comprendre si la classe moyenne supérieure, les petits patrons, ceux qui font un peu la colonne vertébrale du fonctionnement de l'économie française, vont avoir un découragement total face au discours qui consiste à dire que sur 1, il y a augmentation des impôts en permanence, 2, augmentation des charges sociales, et troisièmement, diminution des bénéfices éventuels du type des allocations familiales. Et à ce moment-là, si ce qui est la colonne vertébrale de l'économie française est complètement découragé, là, on risque des choses très graves. Et effectivement, on est face à un vrai sujet, parce que ce qui est perdu aujourd'hui ne sera pas rattrapé plus tard.
Oui, c'est pas. Guillaume a tout à fait raison. C'est pas tant découragé que de dire qu'à un moment donné, ils vont dire je vais investir ailleurs, si vous voulez. C'est-à-dire que.
Non, mais le cadre moyen, il n'investit pas ailleurs.
Pas le cadre moyen, je suis d'accord. Là, je parlais effectivement des patrons de PME, de TI ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir en France est quand même compliqué parce que l'horizon économique est difficile. La fiscalité est effrayante, etc. Les droits du travail, etc., etc. Donc, à un moment donné, un chef d'entreprise, il a des investissements possibles. Il se dit, est-ce que je l'ai fait en France?
La déclaration de Danone d'hier.
Est-ce que je l'ai fait en Angleterre, ou est-ce que je l'ai fait en Chine, ou est-ce que je l'ai fait au Brésil? Et le jour où les forces vives, effectivement, qui drive tout ça, auront plus dans la tête de le faire ailleurs qu'en France, là, ça deviendra très compliqué.
Est-ce que Mario Draghi a encore la capacité de nous aider? On est à 0,75% de taux d'intérêt. On pourrait encore aller à zéro. Est-ce qu'il faut une politique de change? Est-ce qu'il faut faire baisser l'euro? Même si les Allemands sont en train de se...
Bien sûr, et puis c'est pas fini en plus. Ça, c'est celle-là. Guillaume parlait des resserrements monétaires. Ça, faut oublier. Hein. La zone euro est en pression déflationniste pour longtemps. Et d'ailleurs, si je reviens sur la France, faut bien se le mettre dans le crâne une bonne fois pour toutes, je pense, c'est que les réformes structurelles seront récessives à court terme.
Oui, mais ça, on est bien d'accord.
Et l'ajustement budgétaire sera récessif à court terme.
Elle sera bonne dans la tête des gens.
Oui, je suis d'accord.
On saura où on va.
Regardez, Monti a fait des bonnes réformes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Or, la croissance italienne l'année dernière, c'est moins 2. Et c'est pas fini. Voilà. Donc, non, mais il faut bien se mettre ça dans le crâne. Donc, de toute façon, on aura besoin du soutien de la BCE. Monti, Hollande et tous ceux qui feront des réformes auront besoin du soutien de la BCE. Donc c'est pas fini. Elle va encore baisser son taux. Elle va encore faire. Je pense qu'elle va devoir mobiliser l'OMT. Il faudra une demande officielle de l'Espagne.
C'est le principe qui a été arrêté.
De rachat de dette publique illimité, etc.
Illimité pour des obligations à maturité.
Et Draghi,
si les pays en font la demande, je rappelle quand même ce que c'est que l'OMT.
Oui, bien sûr. Mais et Draghi est relativement plus subtil et plus lucide et plus habile que ses prédécesseurs en ce qui concerne le pilotage de l'euro, puisqu'il a mis un cap la dernière fois. Où il a dit qu'il faudrait pas que l'euro continue.
Trace d'une ambiguïté merveilleuse. Hein.
Oui, mais c'est bien dans le cadre de son mandat. Oui, c'est pour.
Je m'inquiète également du niveau de la monnaie.
Mais je pense que l'euro devra encore baisser. Voilà. Bon, mais il faut tout ça.
Guillaume Dard, vous avez foi en la capacité de Mario Draghi à nous donner encore plus d'oxygène et plus de temps, puisque c'est bien ça dont on a besoin.
Je crois que Mario Draghi, comme l'a dit Jean-Pierre, est extrêmement subtil et bien entendu, il va faire le maximum pour donner une souplesse monétaire. Mais qu'en même temps, les Allemands sont très vigilants et que, par exemple, Monsieur Weidmann, qui est le patron de la Bundesbank, était agacé par la mise en place l'annonce de l'OMT l'été dernier et que il pousse de l'autre côté Monsieur Draghi à avoir des mesures monétaires un peu moins souples. Quand il y a eu le remboursement du financement des banques à un an, c'était à la fois un bon signe parce que ça voulait dire que les banques allaient mieux et se reprêtaient entre elles, mais qu'en même temps, on a réduit la base monétaire, c'est-à-dire l'argent créé par la Banque Centrale qui ensuite théoriquement se diffuse dans l'économie. Et donc, il peut faire un certain nombre de choses, mais il y a une limite qui est celle que les Allemands donneront.
De toute façon, le lit de la danse, c'est la réserve fédérale. C'est elle qui détermine la politique monétaire mondiale. Ceux qui suivent pas voient la valeur de leur monnaie s'apprécier. Ça a toujours été comme ça. Bretton Woods ou après Bretton Woods.
Alors que se passera-t-il après Bernanke? On va dans un an.
Et qu'est-ce qu'on fera quand tout
Non, il s'en va pas, je pense pas.
Qu'est-ce qu'on fera quand les monnaies n'auront cessé de reculer? Parce que qu'est-ce qu'il va, il va juste pour l'yen, là.
Non, mais.
Il va aller où, le dollar?
D'abord, c'est tous les pays riches qui font ça. Et tous les pays riches font ça, voilà la valeur de leur monnaie baisser, et c'est les monnaies émergentes qui montent, hein. Voilà, tendanciellement.
Alors, c'est l'euro, hein, visiblement.
Non, l'euro a quand même baissé depuis le début 2010. Alors, il est remonté de, non, mais on n'a pas complètement retracé. Et on est loin même d'avoir retracé la baisse. La vocation de l'euro effectif contre l'ensemble des monnaies a vocation à encore baisser. Et c'est indispensable. On aura besoin d'un euro plus faible. Pour aussi mettre en œuvre ces réformes structurelles, parce qu'il faut être réaliste sur le plan politique quand même. On peut pas mettre en place toutes ces réformes structurelles sans un minimum de soutien au niveau de la demande.
Donc ces sujets sont cruciaux, mais n'oublions pas les réformes structurelles.
Et le résultat de l'élection allemande sera très important en 2013, et la campagne électorale allemande va être très intéressante à suivre.
L'après élection allemande, j'avais un auditeur qui me disait que, de toute façon, il s'appelle Christophe, voilà, Pribo, c'est quitter tout de suite la zone euro. Bon.
Ouais. Oui, mais ça, c'est pas bête, hein, mais simplement, on n'a pas d'offre politique pour faire, on sait pas comment faire. Voilà, c'est ça le problème.
Juste un mot avec vous, Guillaume Dard, sur un truc qui n'a, vous avez dit un mot des banques, on va pas refaire le débat parce qu'on l'a fait largement pendant 48 heures dans les experts, mais, l'Institut Bruegel à Bruxelles nous dit que désormais, on est arrivé au moment où il faut faire payer les créanciers privés des établissements bancaires, notamment les établissements qui devraient être démantelés et mis en faillite, et y compris les créanciers obligataires seniors, donc ceux qui sont prioritaires. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il faut aller jusque là? Parce que tout le monde a quand même l'air de dire que cette fameuse loi française, elle n'atteint pas ses objectifs. L'aléa moral existe toujours. Le risque systémique existe toujours.
Deux. Bon. Alors, les banques françaises sont parmi les banques qui se sont le mieux tirées de la crise et qui ont prouvé plutôt leur solidité. Donc, il n'y avait pas une urgence absolue. Deux, on aurait pu attendre tranquillement la directive européenne pour être calée sur l'ensemble des banques européennes. On vient de parler du chômage en France. C'est pas la peine d'accentuer les contraintes sur le système financier, qui est un des rares succès français significatifs. Troisièmement, le sujet, c'est que les banques qui ont la banque hollandaise, par exemple, qui vient de faire d'avoir des difficultés et dont vous parlez, c'était une banque qui faisait un métier normal de crédit. Absolument. Et s'il y avait une bulle immobilière en Hollande, et c'est ce dont elle souffre. Donc ça n'est pas d'un trader fou, c'est son métier de base.
L'économie réelle, c'est risqué aussi.
Quatrièmement, les créanciers privés qui prêtent aux banques, aux seniors, en dette senior, ce sont des fonds de pension et c'est généralement l'argent des retraités, et donc c'est pas l'argent genre de spéculateurs inuits. Donc simplement, on fait payer de toute manière. In fine, c'est aussi le contribuable. C'est le compte, c'est la personne physique qui paye, qui soit en position de retraité ou en position de contribuable.
Voilà, c'était Guillaume Dard, Christian Poyot et Jean-Pierre Petit. À demain.